L'autobus du paradis, chapitre 9. « Où allez-vous ? » demanda une voix dotée d'un fort accent écossais. Je m'arrêtai et regardai. Le bruit que faisaient les licornes s'était depuis longtemps éteint et ma fuite m'avait conduit en terrain découvert. Je pouvais voir les montagnes, caressées par l'éclat immobile d'un soleil qui n'en finissait pas de se lever. À l'avant-plan, deux ou trois pins dressaient leur silhouette élégante sur un tertre parsemé de roches lisses et couvert de bruyères. Sur une de ces pierres était assis un homme de haute taille, presque un géant, barbu à souhait. Il ne m'était pas encore arrivé de regarder en face un de ces êtres opaques. Maintenant que je le faisais, je découvrais qu'on pouvait avoir à leur égard une sorte de double vision. D'une part, j'apercevais un dieu trônant dans tout l'éclat de sa majesté, un être sans âge dont l'esprit pesait sur le mien comme un lingot d'or pur, et en même temps j'avais sous les yeux un vieillard à la peau tannée, peut-être un ancien berger, un de ces hommes que les touristes prennent pour des simples parce qu'ils sont droits et honnêtes et que leurs voisins qualifient de malins pour la même raison. Ses yeux avaient cette acuité du regard que donne l'habitude de contempler de vastes étendues, et il me semblait deviner sur son visage les rides qu'il avait marquées autrefois, avant que la nouvelle naissance les eût noyées dans un bain d'immortalité. « Je n'en sais trop rien, » dis-je. « Alors venez vous asseoir et faisons un brin de causette. » Et il me fit place auprès de lui. « Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, » dis-je en m'installant sur la pierre à côté de lui. « Je m'appelle Georges. Georges MacDonald. »«
Comment ? C'est vous ? » m'écriai-je.
« Dans ce cas, vous allez pouvoir me dire tout. Vous, du moins, vous ne me tromperez pas. » Et supposant que cet élan de confiance avait besoin d'explication, j'essayai de dire à mon interlocuteur avec un tremblement dans la voix tout ce que ces livres avaient été pour moi. Je lui rapportai comment, me trouvant par un froid après-midi d'hiver à Leatherhead Station, j'avais alors 16 ans, j'y fis l'acquisition d'un exemplaire de Fantaste, et comment ce livre avait été pour moi, ce qu'avait été pour Dante l'apparition de Béatrice. Ici commence la vie nouvelle. Je lui confessai que cette vie était longtemps restée pour moi dans le domaine de l'imagination, et avec quelle lenteur et combien de réticence je finis par admettre que la foi chrétienne de l'auteur avait avec elle autre chose qu'une relation accidentelle. Il se dégageait de ses livres un parfum que j'avais goûté particulièrement, tout en me refusant longtemps à lui donner son vrai nom, car ce parfum, c'était celui de la sainteté. À ce moment, il mit sa main sur la mienne et m'arrêta. « Mon fils, dit-il, ta sympathie, toute sympathie, est pour moi d'un prix inestimable. Mais, et ici il se montrait bien écossais, nous pouvons gagner un temps précieux si je te dis que tous ces détails concernant ta vie privée me sont déjà familiers. J'ai pu d'ailleurs remarquer que ta mémoire manquait de fidélité par rapport à certains d'entre eux. « Oh ! » dis-je, et je devins silencieux. « Tu avais commencé à parler de choses plus utiles. Pardonnez-moi, monsieur, je l'avais presque oublié. Je ne suis plus inquiet maintenant, mais je reste curieux de recevoir la réponse à mon problème. C'est au sujet de tous ces fantômes. Est-ce que certains d'entre eux restent vraiment ici ? Le peuvent-ils seulement ? Est-ce un vrai choix qui leur est offert ? Et comment se fait-il qu'ils soient ici ? N'as-tu jamais entendu parler du réfrigérium ? Un homme comme toi a dû rencontrer ce mot chez le poète chrétien du IVe siècle Prudence, à moins que ce ne soit chez l'anglican puritain Jeremy Taylor. Ce mot me dit quelque chose, mais je crains bien d'avoir oublié ce qu'il signifie. Il veut dire que les damnés ont des vacances, des excursions, quoi ? Des excursions dans ce pays-ci ? Pour ceux qui le veulent, oui. Naturellement, la plupart de ces idiots n'y tiennent pas. Ils préfèrent un petit voyage de retour à la terre. Ils y vont donc et jouent toutes sortes de tours à ces pauvres femmes plus ou moins déséquilibrées que vous appelez médiums. Ou bien ils revendiquent la propriété de telle ou telle maison qui fut effectivement la leur autrefois et cela en fait ce qu'on appelle une maison hantée. Ou bien ils espionnent leurs enfants.
ou encore les fantômes littérateurs traînent dans les bibliothèques pour voir si on lit encore leurs livres. Mais s'ils viennent ici, peuvent-ils vraiment rester ?
Oui, certainement. Tu dois avoir entendu dire que ce fut le cas de l'empereur Trajan.
Je ne comprends pas. Le jugement n'est-il pas irréversible ? Y a-t-il réellement une voie qui mène de l'enfer au paradis ?
Cela dépend du sens que l'on donne aux mots. Si ceux dont nous parlons abandonnent la ville grise, que tu sais, elle n'aura pas été pour eux l'enfer. Pour tous ceux qui en repartent, elle n'aura été que le purgatoire.
Mais je crois que tu ferais mieux de ne pas appeler paradis l'endroit où nous sommes. Je veux dire, ce n'est pas ici le paradis profond.
Il eut un sourire.
Appelle-le, si tu veux, la vallée de l'ombre de la vie. Toutefois, pour ceux qui décident de rester, ça aura été dès le début le paradis. De même, on peut dire de ces rues sales et tristes dans la ville en bas qu'elles sont la vallée de l'ombre de la mort. Mais pour ceux qui y restent, la ville aura été l'enfer dès le commencement. Il dut lire l'étonnement sur mon visage, car aussitôt il continua. « Mon fils, dit-il, dans l'état où tu te trouves maintenant, tu ne peux pas comprendre encore ce qu'est l'éternité. Quand Anodos eut jeté un regard par la porte entrouverte des immortels, il ne put rien redire de ce qu'il avait vu. Mais tu peux t'en faire une idée en te disant que le bien et le mal, lorsqu'ils ont atteint leur plein accomplissement, ont un impact, pour ainsi dire, rétrospectif. Ce n'est pas seulement cette vallée où nous sommes, mais aussi leur passé terrestre qui aura été le ciel pour ceux qui sont sauvés. Et pour ceux qui se perdent, l'enfer n'est pas limité à cette ville où règne un crépuscule perpétuel. C'est toute leur vie sur terre qui aura été pour eux déjà un enfer. C'est sur ce point que les mortels se méprennent. Aux prises avec quelques souffrances, ils disent « Aucun bonheur futur ne pourra lui faire contrepoids ». Ils ne savent pas que le ciel, une fois atteint, fait son œuvre à rebours et transforme en gloire cette détresse. Inversement, d'un plaisir coupable, ils disent « Que seulement j'obtienne ceci et j'en accepte d'avance les conséquences ». Ils ne se rendent pas compte que le châtiment futur va s'inscrire dans le présent et pénétrer de son amertume le fruit défendu. Tout cela se produit dès avant la mort, chez l'homme de bien. Le passé se transforme, de sorte que ses péchés pardonnés et le souvenir de ses peines prennent un goût de ciel. Chez le méchant, le passé se conforme à sa méchanceté et ne contient que tristesse. Et voilà pourquoi, quand à la fin des temps le soleil se lèvera ici et que le crépuscule fera place là-bas à la nuit noire, les bénis de Dieu diront « Nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au paradis ». Et ceux qui seront perdus à jamais, l'enfer, nous y avons toujours été, et tous auront raison. C'est bien dur, cela, monsieur.
Comprends-moi bien, je veux dire que là sera le sens profond de leurs paroles, mais les damnés pourront, bien entendu, s'exprimer en termes différents. Tel dira que, à tort ou à raison, il a toujours servi son pays. Tel autre, qu'il a tout sacrifié à son art. Certains prétendront qu'on ne leur a jamais rendu justice, d'autres que, grâce à Dieu, ils se sont toujours souciés de leur petite personne, presque tous enfin qu'ils ont au moins été loyaux avec eux-mêmes.
Et les sauvés ?
Ah, les sauvés ! Eh bien, ce qui leur arrivera, je crois qu'on peut le décrire comme l'opposé d'un mirage. Ce qui leur aura paru être une vallée de larmes deviendra pour eux, lorsqu'ils regarderont en arrière, un puits de bénédiction. Et là où l'expérience terrestre ne leur avait révélé que des airs arides, c'est des temps pleins de fraîcheur que leur mémoire gardera le souvenir.
Ceux-là ont donc raison qui disent que le ciel et l'enfer ne sont que des états d'esprit.
Halte là, mon ami, ne blasphème pas. L'enfer, oui, est un état d'esprit. Tu n'as jamais rien dit de plus vrai. Inversement, on pourrait dire que tout état d'esprit limité à lui-même, tout cloisonnement dans lequel s'enferme la créature est, en définitive, l'enfer. Mais il n'en va pas de même du ciel. Celui-ci est la réalité. Tout ce qui est pleinement réel est céleste, car tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé et seul l'inébranlable demeurera.
Mais a-t-on encore le choix, après la mort ? Mes amis catholiques en seraient surpris, car pour eux, les âmes du purgatoire sont déjà en fait sauvées. Et mes amis protestants ne seraient pas davantage satisfaits, car dans leur pensée, l'arbre se couche du côté où il tombe. Les uns et les autres peuvent avoir raison, ne t'embarrasse pas de pareilles questions. Tu ne pourras comprendre parfaitement la relation entre choix et temps que lorsque tu auras dépassé ces deux termes. Et si on t'a amené ici, ce n'est pas pour t'aider à satisfaire ta curiosité. Ce qui importe pour toi, c'est de saisir la nature du choix à faire et d'assister à celui que font les nouveaux arrivants.
Sans doute, dis-je, mais cela même demande explication. Que choisissent donc en fait ceux qui décident de rentrer? Et jusqu'ici, je n'en ai pas vu d'autres. Comment peuvent-ils faire ce choix?
Milton avait raison. Le choix d'une âme qui se perd peut être exprimé sous cette forme. Mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel. Il y a toujours quelque chose qu'ils veulent à tout prix garder, fût-ce au prix de la plus grande misère. Il y a toujours quelque chose qui leur paraît préférable à la joie, autrement dit à la réalité. C'est l'enfant gâté qui aime mieux manquer un jeu, être privé de souper, que de demander pardon et de retrouver l'amitié des siens. Chez un enfant, on appelle cela de la bouderie. Chez l'adulte, on a le choix entre une foule de mots à effet. On parle de la noble colère d'Achille, de la rigueur superbe de Coriolan, ou bien c'est une juste revanche, ou le mérite insulté, le respect qu'on doit avoir pour soi-même, la grandeur tragique, la juste fierté, que sais-je encore. Et personne ne se perd pour des vices moins reluisants, par exemple l'ordinaire sensualité. Il y en a sans doute, disons que le sensuel commence par chercher un plaisir réel, quoique limité. Sa faute est assurément la moindre de toutes, mais un temps vient où le plaisir diminue de plus en plus, tandis que le désir, lui, s'exacerbe toujours davantage. Celui qui en devient l'esclave sait qu'il n'obtiendra jamais une vraie joie de cette manière. Pourtant, il tient plus à son insatiable convoitise qu'à la joie même, et ne prétend pas qu'on la lui enlève. Il se battrait à mort s'il le fallait pour la garder. Il voudrait pouvoir se gratter, mais ne le pouvant plus, il aime encore mieux sentir la démangeaison que d'être guéri. Mon maître resta silencieux durant quelques minutes, puis il reprit.
Comme tu le verras, le choix peut revêtir des formes innombrables. Il en est dont on aurait à peine l'idée sur la terre. Nous avons eu ici, il n'y a pas bien longtemps, quelqu'un qui est reparti. On l'appelait Sir Archibald. Durant sa vie terrestre, le problème de la survie avait formé son unique centre d'intérêt. Il avait écrit là-dessus assez de livres pour en remplir tout un rayon. Il avait abordé la question en philosophe, mais bientôt, s'était orienté vers la recherche psychique. C'était devenu sa seule préoccupation. Il faisait de l'expérimentation, donnait des conférences, dirigeait une revue. Il voyageait aussi pour dénicher d'étranges histoires chez les lamas tibétains ou pour recevoir l'initiation dans des confréries de l'Afrique centrale. Des preuves, encore des preuves, et toujours plus de preuves. Voilà ce qu'il lui fallait. S'il lui arrivait de rencontrer quelqu'un qui s'intéressa à autre chose, il en était exaspéré. Au cours d'une de vos guerres, il s'attira des ennuis en poussant les gens à mettre bas les armes. Cette guerre, disait-il, engloutissait des sommes folles qui auraient pu être employées plus utilement pour la recherche. Son heure vint enfin. Notre homme mourut et arriva un jour ici. Rien, absolument rien ne l'aurait empêché de rester et d'aller jusqu'aux montagnes. Mais pensez-vous qu'il sût en profiter? Non, le pays n'avait pour lui aucun attrait. Tout le monde ici avait déjà survécu. Personne ne s'intéressait le moins du monde à la question. Il ne restait rien à démontrer. Ce qui avait rempli sa vie n'avait plus de raison d'être. Naturellement, il lui aurait suffi de reconnaître qu'il s'était trompé et qu'il avait pris les moyens pour la fin, de rire une bonne fois de lui-même, et il aurait pu repartir à zéro comme un petit enfant et entrer dans la joie. Mais il n'en fit rien. La joie, cela ne l'intéressait pas. Finalement, il est reparti.
« Fantastique ! » murmurai-je.
« Tu crois ?» répliqua mon instructeur en me lançant un regard perçant. « Cette histoire te concerne plus que tu ne le penses. Il y a eu avant nous des hommes qui ont mis tant de zèle à prouver l'existence de Dieu, qu'ils en sont venus à ne plus se soucier de Dieu lui-même, comme si celui-ci n'avait rien d'autre à faire que d'exister.
D'autres se sont employés si totalement à propager le christianisme qu'ils n'ont plus eu une seule pensée pour le Christ. Bon sang. On voit aussi cela dans d'autres domaines. N'as-tu jamais entendu parler d'un amateur de livres si préoccupé des premières éditions, de dédicaces, qu'il en aurait perdu la capacité de lire aucun livre? Ou d'un organisateur d'œuvres de charité qui aurait perdu tout sentiment de charité? Nous avons là le plus sournois de tous les pièges. Voulant changer de sujet, je demandais pourquoi les êtres opaques, remplis comme ils sont d'amour pour les autres, ne descendent pas jusqu'à l'enfer pour en faire sortir les fantômes. Pourquoi donc se contentent-ils de les rencontrer ici, dans la plaine? On attendrait d'eux une charité plus militante. « Tu comprendras mieux cela, me dit-il, peut-être même avant de te remettre en route. Dans l'intervalle, je dois te dire que nos gens ont fait plus pour les fantômes que tu ne peux le mesurer. Chacun de nous ne vit que pour progresser toujours davantage à l'intérieur du massif montagneux. Or, chacun a interrompu son voyage et parcouru à rebours d'incommensurables distances pour redescendre ici et tenter de sauver l'un ou l'autre fantôme. C'est bien sûr pour nous une joie de le faire, mais tu n'as pas le droit de nous reprocher de ne faire que cela. Il serait d'ailleurs vain d'aller plus loin, même si nous le pouvions. L'homme saint d'esprit ne saurait se rendre utile à un fou si, pour l'aider, il se rendait fou lui-même. Mais qu'en est-il de ces pauvres spectres qui ne prennent jamais le bus? Tous ceux qui le désirent le prennent. Ne crains rien, il n'existe en fait que deux sortes de gens. Ceux qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu se résout finalement à dire « Que ta volonté soit faite ». Tous ceux qui sont en enfer ont choisi d'y être. Sans ce choix personnel, il n'y aurait pas d'enfer. Une âme qui désire la joie avec sérieux et constance ne manquera jamais de l'atteindre. Quiconque cherche trouve, à ceux qui frappent, il sera ouvert. Nous fûmes soudain interrompus par la voix aigre d'un spectre qui parlait avec une rapidité vertigineuse. Nous nous retournâmes pour le voir. C'était une vieille femme en conversation, si l'on peut dire, avec un des êtres opaques. Elle était si occupée de son discours qu'elle ne remarquait pas notre présence. De temps en temps, l'esprit essayait de placer un mot, mais il n'y parvenait pas. « Ah, mon cher, disait-elle, j'ai eu bien des ennuis. Je me demande comment j'ai pu arriver jusqu'ici. Je devais venir avec Elinor Stone, et nous étions donné rendez-vous au coin de Sing Street. Je lui avais dit en termes bien clairs, car je sais comment elle est, et si je ne lui ai pas dit 100 fois, je ne l'ai pas dit une seule fois, que je ne voulais pas la retrouver devant cette affreuse maison pour femme de Marjorie Banks, surtout après la manière dont elle m'a traité. C'est bien là une des choses les plus affreuses qui me soient arrivées. Je mourrais d'envie de te le dire, parce que j'étais sûr que tu me donnerais raison. Non, attends un moment, mon cher, laisse-moi te dire. J'ai essayé de vivre avec elle, quand je suis arrivé, et tout était bien réglé. Elle devait faire la cuisine, et moi je devais m'occuper de la maison. Et je croyais vraiment que j'allais être enfin tranquille, après tout ce que j'avais souffert. Mais non, elle avait complètement changé. Elle était devenue férocement égoïste, sans l'ombre de sympathie pour personne, sinon pour elle-même. Et comme je lui ai dit, je crois, moi, que j'ai droit à un peu d'égard. Toi, au moins, tu as vécu ta vie jusqu'au bout, tandis que moi, je n'aurais pas dû arriver ici avant des années et des années. Mais j'oublie... Tu ne sais pas, on m'a assassiné. Oui, tout simplement assassiné. Cet homme n'aurait jamais dû m'opérer. Je serais encore en vie aujourd'hui. Mais on m'a affamé dans cet odieux hôpital où personne n'est jamais venu s'occuper de moi. La voix géniarde, monotone, s'éteignit peu à peu, tandis que la femme s'éloignait, toujours accompagnée par la lumineuse patience qui marchait à ses côtés. « Qu'est-ce qui t'inquiète, mon fils ?» demanda mon interlocuteur. « C'est que, à mon sens, monsieur... Cette malheureuse créature n'est pas du genre à devoir seulement risquer de perdre son âme. Elle n'est pas méchante, ce n'est qu'une vieille femme sotte et bavarde qui a pris l'habitude de ronchonner à tout propos. Je pense qu'avec un peu de gentillesse, du repos et un petit changement, cela s'arrangerait. C'est bien ce qu'elle a été autrefois, en effet, et c'est peut-être ce qu'elle est encore. En ce cas, elle peut certainement guérir. Mais toute la question est de savoir si maintenant... C'est encore une ronchonneuse. J'aurais cru que cela ne faisait aucun doute. Tu ne m'as pas compris. Ce qu'on peut se demander, c'est si elle est une ronchonneuse ou si elle n'est plus qu'un ronchonnement. S'il y a véritablement ne fût-ce que la trace d'une vraie femme derrière ce ronchonnement, on peut la ramener à la vie. S'il reste au moins une petite étincelle sous les cendres,
Nous soufflerons dessus jusqu'à ce que le tas tout entier soit redevenu rouge et incandescent. Mais s'il n'y a plus que des cendres, nous n'allons pas nous les souffler éternellement dans les yeux. Il ne reste plus qu'à les balayer. Mais comment peut-il y avoir un ronchonnement sans quelqu'un qui ronchonne? Tu vois, toute la difficulté pour comprendre l'enfer, c'est que la chose à comprendre ressemble tellement à rien. Tu dois pourtant en avoir fait l'expérience. On commence avec une humeur ronchonneuse, mais on ne s'y est pas identifié. Et peut-être garde-t-on un œil critique. Aux heures sombres, tu as pu vouloir cette humeur, la faire tienne. Et après, tu peux te repentir et en sortir. Mais le jour peut venir où tu en es devenu incapable. Alors, il n'y aura plus de toi pour te reprocher ton mauvais caractère, ni même pour y prendre plaisir, mais seulement ce ronchonnement intarissable, continuant tout seul comme une mécanique. Mais viens, tu es ici pour regarder, écouter. Prends mon bras, nous allons faire un petit tour. J'obéis. M'appuyer sur le bras d'un plus vieux que moi était une expérience qui me ramenait au temps de mon enfance. Avec ce secours, je trouvais la marche tolérable, à tel point que je me flattais d'avoir déjà les pieds plus fermes, jusqu'au moment où un regard jeté sur ces pauvres choses transparentes me persuada que je devais toute ma facilité au bras puissant de mon vieux maître. Fût-ce aussi en raison de cette présence que mes sens me semblèrent avoir reçu un stimulant. Je remarquai des senteurs qui jusqu'ici m'avaient échappé, et le pays revêtit à mes yeux une nouvelle beauté. Partout il y avait de l'eau, et des fleurs minuscules frémissaient sous la brise matinale. Au loin, dans les bois, j'aperçus des chevreuils qui jetaient un regard furtif, et une fois une panthère à poils luisants vint ronronner à deux pas de mon compagnon. Nous vîmes aussi bon nombre de fantômes. Parmi eux, un spectre féminin me parut le plus digne de pitié. Ce qui l'affectait était à l'opposé de la crainte qui avait arrêté l'autre, cette femme qu'avait effrayée les licornes. Celle-ci semblait n'avoir pas conscience de son apparence fantasmagorique. Plus d'un parmi les êtres opaques essaya de lui parler, et je n'arrivais pas tout de suite à saisir son comportement à leur égard. Elle semblait se contorsionner, tenter de faire prendre à son visage aux traits indistincts et à son corps évanescent des attitudes incompréhensibles. Finalement, j'en arrivais à cette conclusion, invraisemblable en apparence, qu'elle se croyait encore capable de séduire ce qui l'approchait, et que c'était bien là ce qu'elle tentait de faire. Elle était, on le voyait, bien incapable de concevoir une conversation qui ne tendît pas à ce but. Un cadavre à demi décomposé se serait dressé dans son cercueil, aurait enduit de rouge à lèvres ses gencives dénudées, et se serait efforcé de flirter que le spectacle n'aurait pas été plus effroyable. Finalement, elle grommela « Stupide créature !» et s'en retourna vers le bus. Cette petite scène m'incita à demander à mon maître ce qu'il pensait de l'affaire des licornes. « Le coup a peut-être réussi, me dit-il. Tu as sûrement compris qu'il voulait l'effrayer, non que cette peur elle-même pût la rendre moins fantomale. » Mais cela pouvait la faire sortir un instant d'elle-même. Et pendant cet instant-là, il y avait peut-être une chance. J'en ai vu qui ont été sauvés de cette façon. Nous rencontrâmes ensuite plusieurs fantômes qui n'étaient venus si près du ciel que pour parler de l'enfer aux êtres célestes. C'est là, en fait, parmi les visiteurs, un des types les plus communs. D'autres, qui apparemment avaient été comme moi professeurs, voulaient à tout prix donner des conférences sur le même sujet. Ils avaient apporté de gros cahiers de notes, pleins de statistiques et de cartes. L'un d'eux avait même un appareil de projection. Certains cherchaient à raconter des anecdotes concernant des pêcheurs notoires de toutes les époques, dont ils avaient fait la connaissance en bas. Mais la plupart semblaient croire que le simple fait de s'être ménagé à eux-mêmes une telle infortune leur conférait une sorte de supériorité. « Vous avez mené une vie trop protégée, » disait-il d'un ton grondeur. « Vous ne connaissez pas les désagréments de l'existence. Nous allons vous instruire en vous citant des faits. » Comme si leur seul propos, en venant en ce lieu, avait été de teinter le ciel de couleurs et d'images empruntées à l'enfer. Et, à en juger par ma propre connaissance du monde d'en bas, ils étaient tous aussi peu dignes de confiance les uns que les autres, et tout aussi peu curieux du pays dont ils venaient à peine de franchir le seuil.
Ils repoussèrent tout effort fait pour leur en apprendre quelque chose. Et quand ils virent que personne ne les écoutait, ils reprirent l'un après l'autre le chemin du retour. Ce besoin étrange de décrire l'enfer ne représente que la forme la plus inoffensive d'un travers tout à fait commun parmi les fantômes. Le désir d'étendre le domaine de l'enfer, de l'apporter matériellement, s'il l'avait pu, jusque dans le paradis. Il y avait même parmi eux des orateurs de carrefour qui, d'une voix grêle, susurrante, pressaient les esprits bienheureux de dénouer leurs entraves, de fuir le bonheur dont ils étaient prisonniers, d'abattre les montagnes de leurs propres mains et de s'emparer du ciel pour en faire leur propriété. L'enfer offrait pour cela sa coopération. Il y avait des fantômes spécialistes de la planification. Il fallait, selon eux, endiguer la rivière, couper les arbres, tuer les animaux, construire un chemin de fer à crémaillère, faire disparaître cette herbe odieuse, cette mousse, cette bruyère, et recouvrir le sol avec de l'asphalte. Il y avait les fantômes matérialistes qui cherchaient à persuader les immortels qu'ils étaient dans l'illusion. Il n'y avait pas de vie après la mort, et tout ce qu'ils voyaient était le résultat d'une hallucination. Il y avait enfin des fantômes ordinaires, de vrais fantômes, pleinement conscients de leur déchéance. Ils acceptaient de jouer le rôle traditionnel du revenant et semblaient espérer faire peur à quelqu'un. Ce désir pouvait-il être satisfait? Je n'en avais nulle idée, mais mon maître me fit souvenir que le plaisir d'effrayer les autres n'est pas chose inconnue sur la terre. Il me rappela le mot de Tacite « Ils font peur de peur d'avoir peur ». Quand ce qui reste d'un être humain a été réduit à l'état de spectre et peut se dire qu'il est maintenant ce que toute l'humanité a toujours redouté, une ombre glacée hantant les cimetières, cette horrible chose qui ne peut pas exister et pourtant existe en quelque manière, alors terrifier les autres apparaît comme une évasion. On cherche à fuir le sort auquel on a été voué, à échapper à la crainte qu'inspirent les autres fantômes, à la crainte qu'on a de soi-même, car avoir peur de soi, c'est bien ce qu'il y a au monde de plus affreux. Je vis pis encore des caricatures de fantômes qui avaient à peine gardé une apparence humaine, monstres qui n'avaient pas reculé devant un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre l'arrêt du bus et parvenir ainsi au pays de l'ombre de la vie. Ils s'étaient avancés en boitant sur l'herbe qui les torturait, uniquement pour cracher, dans une sorte d'extase de haine, leur envie et, chose plus difficile encore à comprendre, le mépris qu'ils avaient de la joie des autres. Le long voyage qu'ils avaient fait leur paraissait peu de chose à côté de la satisfaction qu'ils éprouvaient à pouvoir, face à l'aurore éternelle, dire à ces petits saints, à ces cagots, à ces faux dévots, à ces poseurs, à ces possédants, tout ce qu'ils pensaient d'eux. « Comment se fait-il qu'ils soient ici ? » demandai-je. J'en ai vu de cette sorte qui se sont convertis, me répondit mon maître, alors que d'autres, dont on aurait pu croire qu'ils étaient moins complètement condamnés, s'en sont allés. Ceux qui haïssent la bonté sont parfois plus proches d'elle que ceux qui n'en connaissent rien et croient qu'ils la possèdent déjà. Mais chut, me souffla soudain mon compagnon. Nous nous trouvions près de quelques buissons derrière lesquels se dessinait la silhouette de l'un des êtres opaques ainsi que celle d'un fantôme. Ils venaient apparemment de se rencontrer. L'aspect du second évoquait en moi un vague souvenir, mais j'eus bientôt fait de m'apercevoir que je ne le connaissais pas autrement que par des photos parues dans les journaux. C'était en fait un artiste célèbre. « Mon Dieu » murmura-t-il en lançant un regard circulaire. « Mon Dieu, quoi ?» demanda l'esprit. « Que voulez-vous dire, mon Dieu, quoi ? Dans notre grammaire, Dieu est un nom. « Ah, oui, je vois. » Moi, je voulais seulement dire « nom d'un chien » ou quelque chose comme ça. Je voulais... Voyons, tout cela, c'est... Enfin, j'aimerais bien faire de cela un tableau. Si j'étais vous, je ne me préoccuperais pas de cela pour le moment. Voyons, est-ce qu'on ne va pas avoir le droit de continuer à peindre? Il faut d'abord regarder. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai vu ce que j'ai désiré voir. Mon Dieu, ce que je regrette de ne pas avoir apporté mon matériel. L'esprit hocha la tête et de sa chevelure jaillirent des éclairs. « Cette sorte de chose, dit-il, ne sert à rien ici. »« Et que voulez-vous dire ? » ?»« Quand vous faisiez de la peinture sur terre, tout au moins à vos débuts, c'était parce que vous aviez saisi quelques reflets du ciel dans un paysage terrestre, et si vos œuvres ont eu du succès,
c'est qu'elle permettait à d'autres d'avoir eux aussi cette vision fugitive. Mais ici, vous êtes en présence de la réalité. C'est d'ici que les messages sont partis. Il est inutile de nous parler de ce pays puisque nous y sommes et que nous le voyons. J'ajoute que nous autres, nous le voyons mieux que vous. Il n'y aura donc jamais ici aucune raison de se remettre à peindre ?
Je ne dis pas cela. Quand vous serez devenu une personne, ne vous inquiétez pas, nous avons tous eu à le devenir. Alors il y aura des choses que vous verrez mieux que quiconque. Vous voudrez alors nous en parler, mais vous n'en êtes pas encore là. Pour l'instant, ce que vous avez à faire, c'est de voir. Venez et voyez. Il est sans borne. Venez et nourrissez-vous. »
Il y eut un temps d'arrêt.
« Voilà qui sera délicieux, » finit par dire le fantôme sans grande conviction.
« Venez donc, » dit l'esprit, et il lui offrit son bras.
« Quand pensez-vous que je pourrais me remettre à peindre ?»
L'esprit éclata de rire.
« Ne comprenez-vous donc pas que vous ne le ferez jamais si vous continuez à ne penser qu'à cela ?»«
Que voulez-vous dire ?»«
Eh bien, si ce pays ne vous intéresse que dans la mesure où il vous fournit des sujets de tableaux, vous n'apprendrez jamais à le voir. »
Mais c'est comme ça qu'un véritable artiste peut s'intéresser au pays.
Non pas, vous l'avez oublié, ce n'est pas ainsi que vous avez commencé. La lumière a été votre premier amour. Vous avez aimé peindre parce que vous vouliez dire quelque chose de la lumière.
Oh, il y a bien longtemps de cela. Avec le temps, tout cela change. Mais j'en suis sûr, vous n'avez pas vu les œuvres que j'ai réalisées plus tard. Plus on va, plus on s'intéresse à la peinture pour elle-même.
C'est tout à fait vrai. Moi aussi, j'ai dû me guérir de cette déformation. Une vraie chose trappe. L'encre, les cordes de violon, les couleurs, on a besoin de tout cela là-bas. Mais ce sont de dangereux excitants. Chaque poète, musicien ou peintre passe peu à peu, sauf si la grâce agit, de l'amour des choses qu'il s'efforce d'exprimer à l'amour de l'expression qu'il en donne, jusqu'au point où, au plus profond de l'enfer, ce n'est plus Dieu qui les intéresse, mais seulement ce qu'ils disent de Dieu. Car sachez-le bien, ça ne s'arrête pas à l'amour de l'art. Cela descend de toujours plus bas pour ne plus s'intéresser qu'à eux-mêmes et à leur renom.
Je ne crois pas que ce qu'on pense de moi me préoccupe beaucoup, répliqua l'autre avec raideur.
Très bien. Parmi nous, il n'en est guère qui ait été entièrement quitte de ce genre de choses quand ils sont arrivés. D'ailleurs, s'il vous en reste quelques démangeaisons, cela disparaîtra quand vous arriverez à la fontaine.
Quelle fontaine ?
Elle se trouve là-haut, dans les montagnes, entre deux coteaux verdoyants. L'eau en est fraîche et pure. Elle est un peu comme le l'été. Quand on en a bu, on perd à jamais tout sentiment de propriété à l'égard de ses œuvres passées. On jouit de celles-ci, mais comme si elles appartenaient à un autre, sans en éprouver ni orgueil ni modestie.
Fameux ! Dit le spectre sans enthousiasme.
« Allons, décidez-vous, » fit l'esprit, et il aida l'ombre à faire quelques pas clopinants dans la direction de l'est.
« Je suppose, » dit l'artiste, comme s'il se parlait à lui-même, « qu'il y aura des gens intéressants à rencontrer. »«
Ils le seront tous ?»«
Oh, oui, sans doute, mais je veux parler de gens qui sont de notre bord, Claude Lorrain, par exemple, ou Cézanne, ou vous les verrez tôt ou tard, s'ils sont là. »
Vous ne le savez donc pas ?
Ma foi, non, je ne suis ici que depuis quelques années. Il aurait fallu beaucoup de chance pour que je les rencontre. Nous sommes tellement nombreux ici.
Pourtant, quand il s'agit d'hommes qui se sont distingués, vous devez en avoir entendu parler.
Mais ils ne sont pas plus distingués que n'importe qui.
Ne le comprenez-vous pas ?
La gloire se répand tous indistinctement, et elle rejaillit de tous comme la lumière d'autant de miroirs. Mais ce qui compte, c'est la lumière.
Voulez-vous dire qu'il n'y a pas ici d'hommes célèbres ?
Célèbres, ils le sont tous. Tous sont connus, appréciés, préservés de l'oubli par le seul esprit qui soit apte à juger chacun selon ce qu'il est véritablement.
Sans doute, en ce sens-là.
Ne vous arrêtez pas, s'écria vivement l'esprit en s'efforçant d'entraîner son compagnon un peu plus loin.
Il faut donc, reprit ce dernier, se contenter de la renommée dont on jouit auprès de la postérité.
Mon ami, ne savez-vous donc pas ?
Quoi donc ?
Qu'on nous a déjà complètement oubliés, vous et moi sur la terre.
Que dites-vous là ? S'exclama l'autre, et il dégagea son bras.
Voulez-vous dire que ces satanés néo-régionalistes ont fini par triompher ?»«
Seigneur, oui !» repartit l'esprit, frémissant d'un grand rire qui rejaillissait en éclair.
« On n'obtiendrait pas 5 livres d'un de mes tableaux, ou même d'un des vôtres, pas plus en Europe qu'en Amérique. Nous sommes passés de mode, vous et moi. »«
Laissez-moi, il faut que je m'en aille tout de suite. Sacrebleu, c'est un devoir de penser à l'avenir de l'art. Il faut que je retourne chez mes amis. Il faut que j'écrive un article. Nous devons rédiger et signer un manifeste, publier une revue. Il faut faire de la publicité. Laissez-moi partir. Cela passe les bornes, cette histoire. »
Et sans même écouter la réponse de l'esprit, le spectre s'éclipsa.